matin à vous tous. Bon dimanche. Et merci à Jérémy et son équipe pour ces beaux chants. Alors ce matin, je vous invite à prendre la parole de Dieu et s'il vous plaît, tournez à l'épître de Paul aux Philippiens. Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 1. Et nous allons considérer les versets 12 à 26. Une épître que nous avons intitulée « Connaître Christ et le faire connaître ». Et nous pouvons nous poser la question « Mais pourquoi ?» La réponse est la suivante, c'est parce que connaître Christ, jouir d'une communion intime, complète, parfaite avec notre bien-aimé Seigneur et Sauveur, c'est le but de notre existence. C'est pourquoi Dieu nous a créés. Et c'est pourquoi Dieu nous a sauvés, c'est de connaître Christ. Et Paul va le dire dans Philippiens chapitre 3, c'était justement le but de son existence, de connaître Christ. Et pourquoi le faire connaître? Parce que annoncer l'Évangile pour que d'autres puissent le connaître, c'est aussi le but de notre existence. C'est pourquoi Dieu nous a sauvés. Et c'est la recommandation que Jésus a donnée à ses disciples. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Pourquoi étudier Philippiens en 2015? Parce que c'est de l'actualité et sera toujours de l'actualité. Aussi longtemps que nous sommes ici bas sur la terre. Parce que ici-bas sur la terre, personne n'est jamais parvenu et ne parviendra jamais à pleinement connaître Christ. Personne ne peut dire ce matin, je suis arrivé. Alors il y aura toujours de la place pour mieux connaître notre Sauveur. Et au moment où je vous parle, il y a encore des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ. Alors il y a encore du boulot à faire. Alors, Philippiens, c'est un livre extrêmement actuel, même en 2015. Et la parole de Dieu aussi, d'ailleurs, c'est un livre qui est de l'actualité. Alors, j'aimerais vous donner juste une petite résumé de ce que nous avons vu il y a 2 semaines. On a parlé de l'idée maîtresse de l'Épître. La vraie joie nous parvient de la communion et de l'unité dans la propagation de l'Évangile, en dépendant et en cherchant à pleinement connaître Christ. Nous dépendons de Dieu pour faire cela, et aussi pendant que nous sommes en train de propager l'Évangile, nous aussi, nous voudrions aussi mieux connaître notre Sauveur. Comme quelqu'un a dit, tu ne peux pas amener quelqu'un plus près de la croix que tu l'es toi-même. Et Paul va le dire aussi dans chapitre 3, que même au-dessus des efforts pour propager l'Évangile, son désir ultime, c'était de connaître Christ. Le verset clé de l'Épître, nous l'avons vu aussi il y a 2 semaines, Philippiens 1, 27, « Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ. Demeurez ferme dans un même esprit. » On voit aussi la notion de l'unité, combattant d'une même âme, pour la foi de l'Évangile. Un résumé du chapitre 1 que nous avons considéré sur le thème de la communion dans l'Évangile. Parce que Paul écrit à cette église à Philippe, il est en communion avec cette église, et cette église est en communion avec lui. Alors dans le verset 1 à 11, Paul apprend leur situation. Il a dit, je me réjouis, je rends grâce à Dieu de la part que vous prenez à l'Évangile. Alors, Paul avait entendu dire que l'église à Philippe était une église qui évangélisait. Et aussi, en même temps, dans les versets 12 à 26, il va leur parler de sa situation. Ce qui m'est arrivé, il va leur dire, a contribué au progrès de l'Évangile. Alors, il y a une église qui participe dans l'Évangile, dans la propagation, et Paul lui-même aussi parle de la progression de l'Évangile. Et quelle est sa réaction face la part qu'ils prenaient à l'évangile, mais on a vu il y a 2 semaines que Paul offrait de joyeuses actions de grâce, de versets 3 à 5, à Dieu, justement parce que il y avait cette église qui évangélisait, sans doute il y avait des âmes qui étaient sauvées, et Paul, c'était pour lui une source de joie. Et vous savez, on a entendu parler ce matin au roi du Seigneur que oui, quand on écoute la télévision, on écoute la radio, nous sommes bombardés de mauvaises nouvelles. Pas beaucoup de choses pour lesquelles on pourrait nous réjouir. Mais vous savez une chose ce matin? Il y a des âmes qui sont sauvées, il y a l'évangile qui est propagé. Et même dans des pays extrêmement difficiles comme la Chine, l'Union soviétique, l'ancienne Union soviétique, la Russie, aujourd'hui, l'évangile est toujours en train d'agir et les âmes sont sauvées. Et comme nous avons vu il y a 2 semaines, quand un âme se convertit, quoi, il y a de la joie aussi. Et nous devrions aussi être joyeux parce que l'Évangile est en train de progresser, les âmes sont sauvées. Et Paul, quand il entend parler de cette église qui est évangélisée, il éclate dans les joyeuses actions de grâce à Dieu. Il y avait aussi pour cette église, il y avait des liens intimes d'affection. Il va vous dire, je vous porte dans mon cœur et je vous chéris avec la tendresse de Jésus-Christ. Et aussi, Paul, en pensant à ces chrétiens, il y avait un ministère d'intercession pour la croissance de cette église. Alors, il prenait le temps de prier pour ces chrétiens, ne cessant dans toutes mes prières pour vous, et ce que je demande dans mes prières. Alors, ce matin, nous allons poursuivre notre étude du chapitre 1, la communion dans l'Évangile, et nous allons focaliser sur les progrès de l'Évangile. Alors, je vous invite à regarder votre texte, Philippiens chapitre 1, et nous allons lire les versets 12 à 26. Paul va dire ceci, « Je veux que vous sachiez, frère, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nous n'ignorons que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères encouragés par mes liens en plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent du Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans les intentions qui ne sont pas pures, et avec la pensée de me susciter quelque affliction dans mes liens. Et qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui, de beaucoup, est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Voilà notre texte pour ce matin. Le thème de ces versets, on peut le résumer comme suit. L'avancement de l'Évangile peut bénéficier des circonstances difficiles personnelles. Et nous voulons nous poser alors une question à ce texte. Comment Est-ce que l'Évangile progresse face aux circonstances difficiles personnelles? Alors tout d'abord, l'Évangile progresse quand Christ est annoncé. Quand Christ est annoncé, l'Évangile progresse. Si vous regardez encore votre texte au verset 12, Paul dit ceci: « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Deux choses à remarquer ici. Quand Paul dit de ce qui m'est arrivé, c'était des circonstances difficiles qu'il avait vécues. Vous allez vous rappeler dans le livre des Actes des Apôtres, là on nous relate justement Paul qui se rend à Jérusalem et là il s'est fait arrêter. Enfin, il était tué même par une foule en furie. Ensuite, il a entrepris un voyage à Rome où est-ce que le bateau a fait un naufrage. Et même quand ils sont allés sur une île, Paul a été mordu par une vipère. Des choses extrêmement difficiles que cet homme a vécues. Et arrivé à Rome, il est emprisonné dans sa maison privée, oui, mais il est prison. Il est enchaîné jour et nuit, gardé par un soldat romain. Alors, humainement parlant, Paul y avait goûté des choses difficiles. Et deuxièmement, que veut-il dire par le progrès de l'Évangile? Est-ce que Paul veut dire que parce que j'ai vécu des choses difficiles, il y a eu des conversions, il y a eu un grand réveil spirituel? Pas nécessairement. Même si cela est souhaitable, que quand l'Évangile est prêché, que les âmes se convertissent. Mais il faut se rappeler une chose ici, que les conversions, ça appartient à Dieu. Dans 1 Corinthiens 3, 6, Paul va dire ceci: « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. » Alors, notre job à nous ce matin, notre boulot, si vous voulez, c'est de semer la parole de Dieu, c'est de l'arroser et laisser les résultats avec Dieu. Alors, c'est pourquoi quand nous parlons du progrès de l'Évangile, on lit des choses telles que, dans le même texte que nous avons lu ce matin, annoncer la parole. Prêcher Christ, annonce Christ. Alors, toutes ces choses-là résument justement cette notion, les progrès de l'Évangile. L'Évangile progresse quand Christ est annoncé. Et ce matin, ce qui me frappe ici, c'est de voir la souveraineté de Dieu. Notre grand Dieu souverain qui est à l'œuvre et qui, malgré les circonstances difficiles de l'apôtre, va faire une œuvre extraordinaire, va permettre que son évangile progresse. Nous savons que Dieu n'est pas l'auteur du mal. On a entendu cela ce matin. Jacques 1, 13 nous dit ceci: Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Mais dans sa souveraineté, Dieu peut utiliser le mal et la méchanceté des hommes pour faire avancer son œuvre, pour faire progresser justement l'Évangile. Et comment est-ce qu'il peut faire cela? Mais il va donner à Paul un nouveau champ d'évangélisation. Verset 13 nous dit ceci: dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Dans Actes chapitre 28, comme je vous ai mentionné, Paul vivait dans une maison privée à Rome. Alors le prétoire désigne probablement les soldats de la garde impériale, la garde de l'empereur qui gardait Paul. Et je peux imaginer, on va utiliser un peu d'imagination sanctifiée si vous voulez, là. Chaque soldat à tour de rôle qui se faisait évangéliser. On pourrait imaginer que quand ils changeaient de chiffre, l'un disait à l'autre: faites attention, il parle de Jésus-Christ. Il va essayer de te convertir. Et non seulement Christ est annoncé au prétoire, tous ces soldats sont évangélisés, mais partout ailleurs. Ce qui a commencé au prétoire faisait maintenant boule de neige à Rome. C'est incroyable! Cet homme est dans le pétrin, il est dans les situations difficiles, et à cause de cela, il y a un nouveau champ d'évangélisation, et l'évangile est répandu. Et non seulement les circonstances difficiles permettent un nouveau champ d'évangélisation, mais ça donne toute une crédibilité à l'évangile. Paul y va dire encore au verset 13, « Nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. » Et ça, c'est une belle attitude que Paul démontre, emprisonné, enchaîné à cause de l'évangile, et pourtant il n'est pas abattu, il n'est pas rancunier, il n'en veut pas à Dieu, il ne boude pas, au contraire, il est rempli de joie. Il n'arrête pas de parler de Christ, de l'annoncer, de le partager. Toute une crédibilité à son message. Et ça a dû être tout un témoignage puissant de la véracité de l'Évangile qui permet aux individus, à un individu, de vivre de façon surnaturelle au-dessus des circonstances. Ça a dû être tout un témoignage pour les inconvertis. L'Évangile aussi progresse parce que l'attitude de Paul, non seulement c'est un puissant témoignage auprès des non-croyants, mais aussi ça affecte les croyants. Paul va dire ceci, la plupart des frères, encouragés par mes liens, en plus d'assurance, pour annoncer sans crainte la parole. Alors les chrétiens voyaient Paul en prison, qui se fermait par la trappe, qui annonçait l'Évangile, même emprisonné. Et eux, maintenant, sont galvanisés. Ils ont du courage pour dire, s'il est capable de faire ça, moi aussi, dans une situation peut-être moins difficile, je suis capable aussi d'aller annoncer l'Évangile. Puis les frères, ils vont justement annoncer la parole sans crainte. Et ici, maintenant, à Rome, moi, m'est bombardé par une petite armée d'évangélistes. Et la situation difficile de Paul et sa réaction a contribué à multiplier le nombre de ceux qui annoncent Christ. Parce qu'ils se sont rendus compte que même pas l'emprisonnement pourrait arrêter la propagation de l'Évangile. Et finalement, l'Évangile progresse malgré les efforts des critiques. Alors vous avez des gens qui n'étaient pas contents de ce qui se passait au verset 15 et au verset 17. Paul parle de ces personnes-là. Mais qui sont-ils? J'aimerais vous suggérer que ce sont des vrais croyants. C'est un peu spécial, là. Mais ils prêchent Christ. On parle des judaïsants au chapitre 3, où est-ce que Paul va leur parler des faux circoncis. Et pour eux, Paul va réserver l'anathème. Parce qu'ils altèrent, vous allez dans Galates, chapitre 1, Paul parle de ceux qui altèrent l'évangile de Christ. Mais ici, dans ce contexte, Christ est annoncé par ces individus et Paul s'en réjouit. Alors, on peut penser que ce sont des vrais chrétiens qui annoncent l'évangile. Mais ils sont motivés par leur ambition propre. Le texte nous dit ils sont animés d'un esprit de dispute. Et dans le texte original, le mot qu'il utilisait là veut dire une ambition, veut dire chercher ses propres intérêts, chercher à entraîner des gens après eux. Et la source de cela, c'est parce que ces hommes-là, ils prêchent Christ par quoi? Envie. Très probablement, ils sont jaloux de Paul. Ils voient son autorité apostolique. Ils voient ses multiples dons. Ils voient que Paul prêche l'Évangile et puis les gens sont convertis. Ils voient sa prédication, il y a des églises qui ont été fondées. Et là, ils annoncent l'Évangile, mais dans le but de discréditer Paul. parce qu'il dit avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens pour rendre sa vie plus difficile. Et probablement, il parlait contre lui en disant, écoute, c'est le grand apôtre Paul, il est en prison, Dieu est en train de le châtier, probablement pour un péché quelconque caché dans sa vie. Quelle est la réaction de Paul à tout cela? Verset 18, il nous dit ceci, « Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. » Pourquoi? Parce que malgré les mauvaises intentions de ses critiquants, Christ était annoncé. Et quand Christ est annoncé, l'Évangile progresse. Et c'est tout simplement cela qui comptait pour Paul. Et vous savez, en pensant à ce texte ici, comment est-ce que le Seigneur, dans sa souveraineté, peut utiliser des circonstances difficiles, personnelles, pour faire avancer, pour faire progresser l'Évangile, parce que Christ est annoncé. J'ai pensé au témoignage de notre frère Fernand Lejeune, qui a vécu une situation personnelle difficile, où son épouse Nicole, qui est maintenant auprès du Seigneur, a été frappée d'une maladie. Il fallait qu'elle soit placée dans une résidence. Mais à cause de cette situation, le Seigneur a utilisé cette situation pour que l'Évangile soit annoncé. Et comme Fernand nous le raconte, à tous les mois, il y avait la permission de mettre un verset biblique sur un mur dans la résidence, où est-ce que tout le monde qui rentrait là le voyait et le lisait. Quel témoignage, quelle puissance de Dieu dans sa souveraineté. Et bien sûr, on verra justement les résultats au ciel. Et combien de vous ici, peut-être ce matin, vous avez vécu des choses semblables, vous êtes peut-être à l'hôpital, au chevet de quelqu'un qui est mourant, un être cher. Et là, vous êtes en train de chanter des cantiques, vous êtes en train justement de prier, et les gardes malades qui sont là vous entendent. Et l'Évangile, à travers ces chants, est annoncé. On verra les résultats au ciel. Dieu fait progresser son Évangile malgré les circonstances difficiles. Deuxièmement, l'Évangile progresse. Quand Christ est annoncé, mais aussi quand Christ est vécu. Au verset 21, nous lisons ceci, « Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » C'est ce que Paul dit. Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Comment vivre Christ peut contribuer afin de progresser l'Évangile? Avant de répondre à cela, j'aimerais considérer qu'est-ce qui peut arrêter l'Évangile à progresser. Et la réponse est tout simple. Si annoncer Christ contribue au progrès de l'Évangile, mais quand nous cessons justement d'annoncer Christ, l'Évangile cesse de progresser, tout simplement. Et qu'est-ce qui pourrait nous inciter à cesser d'annoncer Christ? Il peut y avoir toutes sortes de raisons. Mais une des raisons, c'est la persécution. Et ici, j'ai pris un cas extrême. La menace de la mort pour ceux qui annoncent Christ. On nous raconte l'histoire d'une telle persécution survenue en Corée du Nord, je pense, quand un groupe de soldats armés ont fait irruption dans une église. Ils ont décroché un tableau. Il y avait un tableau, justement, dans cette église de Christ, qui était sur un mur. Ils l'ont posé par terre. Et ils ont ordonné à chaque membre à cracher et à cracher dessus. Sinon, il recevrait une balle dans la tête. Alors, un par un, des membres en fine indienne, ont craché sur le tableau, ils ont marché dessus. On dirait un bon québécois, ils ont pilé dessus. Jusqu'à ce que ce fût le tour d'une petite fille. Elle s'est agenouillée, elle a essuyé le crachat avec ses mains pour ensuite embrasser le tableau. Bien sûr, ça n'a pas fait des affaires des soldats, ils étaient furieux. Ils l'ont amené dans, et après quelques instants, un coup de fusil fut entendu. Là, il y avait une seule brave qui n'a pas failli, lors de l'épreuve extrême, mourir pour Christ. Et Paul, en prison, à Rome, sous le règne d'un empereur cruel, où est-ce que les chrétiens sont persécutés, où est-ce que l'Évangile rencontre l'opposition, Paul est conscient qu'il pourrait être confronté avec un tel choix. Arrêter d'annoncer Christ ou de mourir. Et quel est son désir? Le verset 20 nous dit ceci. Il dit, « Je n'aurai honte de rien. » Il faut admirer justement l'humilité de Paul, ici dans ce contexte. Il se réjouit de la souveraineté de Dieu qui a permis qu'il soit dans les circonstances difficiles. Parce qu'à cause de cela, l'Évangile progresse, qui s'est annoncé. Mais il est aussi conscient de son humanité qui est sujet à la faiblesse et la faiblesse qui pourrait l'amener à renier Christ. Alors comment est-ce qu'il compte rester fidèle à Christ, même dans les circonstances difficiles, même s'il est confronté avec la menace de mort? Comment compte-t-il rester debout? Mais Paul va compter sur les prières des croyants. Il va dire « Grâce à vos prières. » Cela tournera à mon salut. Il n'est pas en train de parler justement de être sauvé. C'est un homme qui connaît le Seigneur. Mais dans le contexte ici, il semble que Paul voudrait être sauvé du pouvoir du péché. Nous sommes sauvés de la pénalité du péché, oui, quand nous acceptons le Christ. Nous serons sauvés de la présence du péché quand Jésus reviendra. Mais jour après jour, ici sur terre, nous avons besoin d'être sauvés du pouvoir du péché. Et Paul ne voudrait pas tomber. Il voulait rester debout. Alors il a dit, je compte sur les prières des croyants. Et ça, c'est une habitude chez Paul. Demander les prières des croyants parce que malgré son grand statut d'apôtre, il savait qu'il avait besoin de soutien du peuple de Dieu. Juste vous donner quelques textes. Dans Romains 15, 30, il exhorte les croyants à Rome comme suit, combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Éphésiens 6, 19, il va dire ceci, priez pour moi pour qu'il me soit donné. Écoutez bien, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 1, frère, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande. C'est bien d'amener nos requêtes au Seigneur, et oui, le Seigneur, même les cheveux de nos têtes, sont comptés. Mais Paul envoie ici le désir de son cœur, c'est pas sa santé. Je ne veux pas non plus dire que minimiser ceux qui ont des problématiques de santé, mais ce qui brûlait en dedans de cet homme, c'était l'Évangile. Et quand il demandait aux gens de prier pour lui, il dit, prie que j'ai cette hardiesse, justement, de faire connaître le Christ. Deuxièmement, Paul aussi va compter sur la puissance de Dieu. Au verset 19, il va dire ceci, grâce à vos prières, oui, mais aussi Dieu est à l'œuvre, et grâce à l'assistance du Saint-Esprit. Et ça, c'est une confiance extraordinaire en Dieu. Dieu avait permis, oui, que Paul vive des situations difficiles dans sa vie. Mais Paul a dit, écoute, je suis convaincu, avec la puissance du Saint-Esprit, il va me soutenir dans cette épreuve. Vous voyez, les chrétiens qui prient, le Saint-Esprit qui est à l'action, Paul est encouragé, il est fortifié. Et vous savez, nous avons tout un soutien de la part de Dieu quand nous avons justement le Saint-Esprit qui est là. Il est notre consolateur. Et combien nous avons besoin d'être consolés. On vit dans un monde déchu. On fait face à des choses extrêmement difficiles. Et pourtant, le Seigneur nous soutient dans nos afflictions parce que nous avons le Saint-Esprit qui demeure en nous et qui est notre consolateur et qui demeure éternellement avec nous. Nous avons aussi il est notre intercesseur. Romains 8, 26, nous ne savons pas ce qui nous convient à demander dans nos prières. Mais nous avons le Saint-Esprit qui intercède avec des soupirs inexprimables. Et tout ce que vous êtes en train de ressentir ce matin, toutes vos peines, toutes vos difficultés, le Saint-Esprit est capable justement de les prendre et de les amener devant le trône de la grâce et vous soutenir dedans. Et troisièmement, le Saint-Esprit est notre professeur. C'est l'Esprit de vérité. Et Jésus a dit, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. On est bien équipés, bien aimés, justement pour faire face à la vie. Et Paul, il le savait. Et aussi, troisièmement, Paul va invoquer son patois, sa devise, si vous voulez. Et c'est au verset 21. Il dit, pour résister justement à cette possibilité, justement, de chuter, d'arrêter d'annoncer Christ et d'arrêter justement l'évangile de progresser. Mais moi, j'ai un patois. Dans ma vie, là, ma vie se résume dans cette phrase. Christ est ma vie et mourir m'est un gain. La parole de vivant va dire ceci, car le Christ est ma vie. Le but et le contenu de toute mon existence et la mort serait un gain. Quelle déclaration. Et ça, c'est un texte qu'on pourrait prêcher tout un sermon là-dessus, mais ce n'est pas mon but ce matin. Mais j'aimerais simplement vous dire que c'est une puissante contre-poison contre la menace de la mort qui pourrait faire quelqu'un justement arrêter d'annoncer Christ et arrêter justement la progression de l'Évangile. Et pourquoi je dis cela? Parce que dans un premier temps, vivre, c'est le Christ. Si vivre, c'est le Christ, si vivre mon existence, si Paul il nous dit qu'il s'identifie totalement avec Jésus-Christ, avec ses plans, ses projets, ses buts, sa volonté, toute son existence, sa raison d'être tourne autour de la personne de Jésus-Christ. Il est rempli, il est imbibé de Jésus-Christ. Et Matthieu 12, 34 nous dit ceci, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, essaye d'arrêter Paul. C'est presque impossible. Ce serait d'essayer d'arrêter le soleil de briller. Cet homme est rempli de Christ. Et de son fort intérieur, ça sort. Et même si tu le menaces avec la mort, je ne m'achèterai pas non plus. Pourquoi? Parce que la mort le ferait entrer dans la présence même du Seigneur pour jouir d'une communion plus intime et parfaite avec lui. Et ça, c'est une bonne manière de faire progresser l'Évangile, même face à la persécution, vivre Christ. Et pourquoi je dis cela? Parce que nous pouvons annoncer Christ sans le vivre pleinement. On a vu cela avec ces gens qui annonçait Christ avec des mauvaises intentions. Et quand la persécution arrive, c'est sûr qu'on va fermer la trappe. Alors, on peut l'annoncer sans le vivre. Mais nous ne pouvons pas vivre Christ sans l'annoncer. Et nous le ferons même face à la persécution. Et troisièmement, je termine avec cela. L'Évangile progresse quand nous donnons la priorité au ministère fructueux. Quand nous donnons la priorité au ministère fructueux. Verset 23. Paul est en face d'un dilemme. Que dit-il? Je suis pressé des deux côtés. Je désire de m'en aller, d'être avec Christ, qu'est-ce qu'il veut dire par cela? Est-ce qu'il est déchiré entre vivre sur la terre et vivre au ciel? Mais pas du tout. Parce que entre les deux, c'est le jour et la nuit. Il n'y a aucune comparaison. Et de vouloir partir juste pour échapper à la persécution que Dieu permettait et que Dieu utilisait pour sa gloire n'aurait pas été une attitude digne de l'apôtre. Et en passant, non plus, ce n'est pas une attitude digne d'un croyant non plus. Ne me méprenez pas, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être masochiste. Mais pour celui ou celle pour qui vivre c'est Christ, pour un tel individu, la volonté de Dieu est précieuse. Même si cela veut dire qu'il faut passer par les circonstances difficiles. Le dilemme de Paul ici, c'est le suivant. Entre servir Christ sur terre ou jouir de sa présence au ciel. Ça, c'est le vrai dilemme. Entre vivre Christ sur terre ou vivre avec Christ au ciel. Alors, comment est-ce qu'il va trancher? Il va donner la priorité à son ministère. Et qu'est-ce qu'il va dire au verset 22? S'il est, ou puisqu'il est utile pour mon œuvre que je vis dans la chair, autrement dit, Paul est en train de dire, écoute, Dieu m'a préparé des œuvres d'avance afin que je les pratique. Et je ne partirai pas avant de les avoir complétées. Ça, c'est comment il va trancher. Il est en train de vivre des choses difficiles. Oui, ce serait bien d'aller au ciel et jouir de la présence de Christ, mais il peut aussi servir Christ sur terre. Et il dit, il est utile, j'ai un ministère à accomplir. Dieu a préparé les œuvres d'avance et je veux les compléter et je ne partirai pas aussi longtemps que je ne les ai pas complétées. Alors, il va donner la priorité à son œuvre. Et pourquoi est-ce qu'il donne la priorité à son œuvre? Parce que c'est un ministère qui est fructueux. Il va dire ceci, à cause de vous, il est plus nécessaire que je ne meure dans la chair. Qu'est-ce que Paul voulait dire? C'est parce que moi, j'ai des œuvres à accomplir, mais je vois aussi que cela porte fruit. Et vous allez bénéficier de ces œuvres de justice que le Seigneur m'a données. Alors, je veux rester aussi. Et troisièmement, ces œuvres-là, son ministère a un impact sur les croyants. Il va dire ceci, je demeurerai et je resterai avec vous. Pourquoi? Pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Votre joie dans la foi. Alors, vous voyez comment est-ce qu'il regarde les deux choses et il faut qu'aller sur un ministère, les œuvres de Dieu qu'a mis entre ses mains, les fruits que ça apporte et l'impact que cela a dans la vie des chrétiens qui fait les avancer. Et vous savez une chose, Paul voit son ministère comme faisant progresser l'Église à Philippe, comme les faisant grandir dans la foi. Et une Église qui avance fait quoi? Annonce Christ. Et par ce fait même, fait avancer l'Évangile. Une église qui évangélise est une église joyeuse. Et tout cela, on peut revenir à cause de ce ministère fructueux de Paul. Et même, je pourrais dire, si on pense à la façon générale, chacun de vous ici ce matin, si vous exercez votre don que le Seigneur vous donne à donner, et si ça porte le fruit désiré. Vous aurez un impact sur le corps de Christ. L'assemblée de Cap-la-Madeleine avancera et l'Évangile aussi en même temps avancera. Je termine avec une exhortation de D.A. Carson, justement, en disant ceci. C'est un résumé du chapitre 1, en fait. Pour relever le défi de faire connaître Christ et commencer à goûter à la vraie joie, mettre la communion dans l'Évangile au centre de votre relation avec les autres croyants. Et on a mentionné brièvement ce matin cette Académie des évangélistes. Ça va être fait avec justement des gens qui veulent faire avancer l'Évangile. Alors, être en communion, savoir qu'est-ce qui se passe. On va faire cela aussi de façon locale dans la région. C'est une communion entre les frères et les sœurs. Et quel beau thème, quel beau sujet pour nous rassembler. Annoncer Christ. Deuxième chose, mettre les priorités de l'Évangile au centre de votre vie de prière. Comme je dis, c'est bien de prier pour nos besoins personnels, oui, nos besoins physiques et matériels, mais pendant le temps aussi de demander au Seigneur la puissance de son Évangile pour amener les âmes au Seigneur. Troisièmement, mettre les progrès de l'Évangile au centre de vos aspirations. Est-ce que nous voulons voir justement cette Église comme une Église qui progresse, qui répand justement l'Évangile? Et dernièrement, mettre les convertis à l'Évangile au centre d'une vie d'oubli de soi basée sur des principes bibliques. Et je vois l'exemple de Paul. Même dans le pétrin, dans des choses difficiles, il dit, je vais rester ici parce que j'ai une œuvre à faire. Ça va vous faire du bien. Ça va avoir un impact dans l'Église et l'Évangile va progresser parce que les chrétiens qui sont en train de grandir et de mûrir et d'avancer, par ce fait même, ils font aussi avancer l'Évangile. Un dernier mot. Si ce matin, vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus comme votre sauveur personnel, je vais dire comme Paul, je ne vous lasse pas de vous dire les mêmes choses. Parce que même en 2015, Christ sauve, Jésus-Christ sauve. Dieu vous aime. C'est incroyable le grand amour du Seigneur pour nous. Et comment est-ce que nous savons cela? Parce qu'il est mort à la croix pour nos péchés. C'est le centre du message de l'Évangile. C'est un Dieu qui est saint, qui est juste, qui est le péché, mais un Dieu qui aime les pécheurs. Et dans son amour, il a trouvé justement la manière de réconcilier les deux. Christ est mort pour nos péchés à la croix de Calvaire. Jésus peut sauver les pécheurs qui se repentent de péché et qui mettent leur foi dans son œuvre à la croix. Alors, si c'est votre cas ce matin, vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, je vous implore justement de vous repentir et de prendre Christ comme votre sauveur. Parce qu'un jour, vous aurez l'occasion justement de commencer à le connaître. Et vous aurez toute l'éternité. Toute l'éternité pour mieux le connaître. On ne pourrait jamais parvenir aux profondeurs de la personne de Dieu, mais on aurait toute l'éternité à y goûter justement à cette merveilleuse vie éternelle de notre merveilleux Sauveur. Et ma prière pour vous, c'est que vous le fassiez avant qu'il ne fasse trop tard. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Tellement de belles choses que tu nous as laissées dans ce livre, inspiré par le Saint-Esprit. Dans ta bonté, tu nous as aussi donné dans notre propre langue afin que nous puissions la comprendre, pour que nous puissions te connaître. Merci pour ce que tu révèles de ta personne, ce Dieu qui aime le pécheur, qui veut que les gens soient sauvés, qui nous a aussi équipés à répandre cette merveilleuse nouvelle. Seigneur, ma prière pour nous tous, moi-même le premier, que tu fasses de chacun de nous. Seigneur, par notre manière de vivre, notre façon de parler, nos ministères, Seigneur, que tu nous as donnés, que nous puissions faire progresser l'Évangile. Et s'il y a quelques-uns parmi nous ce matin qui ne te connaissent pas, dans ta grâce et dans ta bonté, dans ta miséricorde, Seigneur, que tu me donnes cette révélation afin qu'ils puissent te connaître et puissent jouir d'un bonheur éternel. C'est par nous avec ta bénédiction, nous te bénissons, nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Nous demandons ces grâces au nom de Jésus.